taux baisse avec au total 965 000 chômeurs de moins. Le temps partiel est également en recul sur l'année. Seul point noir, le chômage des 15-24 ans qui plafonne à 20%. La qualité de l'emploi s'améliore également. Le nombre d'embauches en CDI, contrat à durée indéterminée, augmente autant que celui en CDD, contrat à durée déterminée, voire même plus pour ceux à temps complet que ceux à temps partiel. Autant de points nouveaux et positifs qui font dire à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, que l'objectif de 7% à l'horizon 2022 semble de plus en plus atteignable.
C'était Patricia Lecomte, c'est la fin de ce journal sur RFI.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes sur les ondes de Radio G à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales. Les émissions se suivent et ne se ressemblent pas, en tout cas pas tout à fait. Ce soir, nous parlerons du livre et de ses métiers d'art. C'est le nom du salon proposé par l'association Animal Libri et qui aura lieu la semaine prochaine à Montreuil-Bellay. On se retrouve avec ce salon en première partie d'émission. Un jeudi sur deux, comme à notre habitude, on retrouve Benoît et sa chronique Science, Nature et Environnement. Cette fois-ci, ce sera en deuxième partie d'émission pour découvrir les actualités de la recherche et sans doute parler de biodiversité. Voici le programme de ce soir. Bien sûr, comme tous les jours, c'est Annelie derrière le micro. Et si vous le voulez bien, on passe les 40 prochaines minutes ensemble. A tout de suite. Ce soir dans l'émission, nous parlons du salon Le Livre et ses métiers d'art. La sixième édition aura lieu les 21, 22 et 23 février à Montreuil-Bellay et cet événement est organisé par l'association Anima Libri. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Evelyne Sago. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
Et vous êtes relieur restauratrice de livres et aussi coordinatrice pour ce salon.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir trouvé un moment pour présenter ce salon. Avant de revenir en détail sur la programmation, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Animal Libri, donc qui organise cet événement, qui est une association qui a été créée en 2001 et dont l'objet est la transmission, l'initiation, la découverte autour des métiers du livre?
C'est exactement ça. Voilà, c'est une association dont je suis à l'initiative aussi, qui date de 2001. Et puis l'idée, c'était dans un premier temps de transmettre mon métier, puisque j'ai fait de la formation professionnelle pendant de nombreuses années. Là maintenant, voilà, j'ai mis un petit frein. Et donc, en plus de pouvoir mettre en place des événements du type de ce salon qui a lieu tous les ans au mois de février.
Et tout au long de l'année, donc il y a ce salon qui est un rendez-vous important pour l'association. Quelles peuvent être les activités de l'association le reste de l'année?
En dehors du salon, l'atelier de relure qui fonctionne, un certain nombre de stages autour des métiers du livre, sur la relure aussi, enfin la relure, de calligraphie, enluminure, tout ce qui peut être mis en place en tant que stage, donc découverte ou initiation. Et puis la mise en place aussi d'événements au moment des journées des métiers d'art, des journées du patrimoine ou à d'autres moments de l'année. Ça peut être aussi la mise en place d'événements extérieurs à Montreuil-Bellay, mais qui tourneront toujours autour des métiers des arts du livre.
Ouais, c'est de transmettre autour de ces métiers-là, toujours.
Voilà. de transmettre, de faire découvrir aussi hein, au plus grand public et de se spécialiser. Voilà, c'est une spécificité. Le salon en lui-même, c'est un événement qui est, je dirais, unique en tout cas en région, mais quasiment dans toute la France, tant par sa réputation que par sa spécificité. Et donc voilà, c'est quelque chose de très particulier, mais qui ne concerne que les métiers d'art, les métiers des arts du livre, les métiers des arts du livre étant inscrits dans le domaine des arts graphiques.
Et justement, ce rendez-vous annuel, ce salon-là, c'est la 6e édition. Comment elle est née l'envie de faire un tel salon consacré au livre et à ces métiers d'art ?
La question piège. vous savez, quand on est installé dans une petite ville, un village, un gros village, comme Montreuil-Bellay, c'est un endroit assez particulier, assez magique, qui est parfaitement bien situé géographiquement, qui a un beau château, qui a un patrimoine bâti assez important. C'est tombé presque sous le sens de pouvoir développer. D'une part, cet aspect découverte des métiers du livre, et d'autre part, l'envie de faire découvrir cette ville qui m'a accueillie il y a déjà pas mal d'années de ça.
Vous parliez un petit peu de tous les métiers donc, qui rentrent dans le champ des arts graphiques, associés au livre, à la fabrication du livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques-uns de ceux qui vont être présents, représentés durant le salon? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup
de choses. Les métiers ou les personnes?
Les métiers.
Alors, les métiers concernent effectivement le domaine des arts graphiques. Ce sont des métiers d'art. Hein. Nous avons bien entendu des relieurs, des restaurateurs de documents, des doreurs sur cuir, calligraphie, enluminure, illustration, typographie, gravure, j'en oublie, tous les métiers du papier, du décor du papier aussi, les fabricants de papier, on a deux fabricants de papier moulin, hein, donc papier comme on faisait jadis, on va dire, marbrure, décor du papier, dominoterie. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que la dominoterie?
Je l'attendais celle-là. Alors la dominoterie, là je vous invite à venir voir puisque nous aurons une experte en la matière sur le salon. La dominoterie, c'est un procédé qui consiste à reproduire un motif, enfin, très globalement, hein, un procédé qui consiste à reproduire un motif. Souvent, c'est un petit tampon de façon récurrente et régulière sur un papier pour faire un décor. Beaucoup de papiers qui ont servi de papier pour les tentures murales ont été faits aussi dans le temps sur ce principe également.
Ouais.
Voilà. C'est un motif, c'est essentiellement un motif récurrent qui reproduit sur un papier pour faire un papier décoré.
Ouais. On voit, c'est des métiers très spécifiques et vous en parliez un petit peu plus tôt. À qui est-ce que ce salon s'adresse? Est-ce qu'il faut déjà connaître toutes les choses de la fabrication du livre?
Il faut juste être curieux, je dirais. Alors ça s'adresse à tout public, hein, comme n'importe quel métier d'art. La seule chose, c'est que la différence, c'est que nous, on est vraiment spécifiquement sur les métiers qui tournent autour de la chaîne du livre dans le cadre de l'artisanat d'art. Maintenant, effectivement, c'est complètement tout public. N'importe qui est un peu curieux, qui a envie de découvrir, il peut aller dans un salon où il va y avoir le bijoutier, le potier, tout le monde rassemblé dans un seul endroit et s'intéresser à un ou plusieurs métiers. Mais là, ils vont s'intéresser essentiellement à tous les métiers du livre.
Mais
c'est vraiment tout public. On a beaucoup d'enfants aussi, de tous les âges qui viennent un petit peu partout. Ça n'est pas élitiste, sauf si on considère que le livre est un objet tellement précieux ou tellement obsolète que voilà, il faut absolument pas considérer ce salon comme un salon élitiste. C'est un mot que moi personnellement je refuse parce que j'ai l'impression d'être cataloguée comme quelqu'un de snob. Voilà, et c'est pas du tout ça. Vous seriez surprise des gens que ça peut passionner. Il suffit juste d'être curieux pour rentrer dans le salon. Hein.
Parce qu'effectivement, on parle de métiers d'art, ça peut être très impressionnant, mais la base de ces métiers, c'est du papier, une matière très, très commune qu'on partage vite.
Bah, le livre, c'est pas que du papier. Le livre, c'est aussi du... Ça peut être du cuir, ça peut être du parchemin, ça peut être du tissu, ça peut être tous les matériaux sur lesquels on peut transcrire une idée, un dessin, une envie, un poème, un texte, ce qu'on veut.
Ouais.
Là, alors le parchemin, c'est un cuir. Ça a été un support de l'écriture pendant plusieurs siècles. Ça peut être aussi le support de l'écriture. Ça peut être aussi du bois. Ça peut être toutes sortes de choses.
Et il y aura...
Ouais. Oui, il y aura.
Je pensais au nombre d'exposants. On va retrouver environ 80 professionnels, donc de tous ces métiers qui viennent de toute la France, qui viennent de l'Europe aussi.
Oui.
Comment vous les avez choisis? Comment vous les avez invités?
Eh bien, moi-même, je suis curieuse. Donc, j'ai été farfouillée, mais ça se fait pas. J'ai été chercher un petit peu sur Internet, un peu partout. Il y avait des gens que je connaissais plus ou moins. J'ai fait une sélection essentiellement sur Facebook, sur tous les sites, puis de lien en lien. Puis là, au bout de 6 ans, il y a un petit carnet d'adresses qui se met quand même bien en place et puis qui se développe au fur et à mesure, puisque les uns connaissant d'autres, qui connaissent encore d'autres. Et puis voilà. Et donc, moi, étant moi-même relieur artisan d'art, j'ai un petit œil qui me permet de faire une... C'est pas très sympa ce que je vais dire, mais qui permet de faire un petit tri au préalable, hein, puisque la qualité du salon, ça repose aussi sur les qualités professionnelles des exposants.
Et il y a aussi beaucoup de nouveaux exposants 43 cette année. Ça, c'est une volonté aussi de renouveler les personnes que vous invitez?
Oui, bien sûr, parce que sinon... on va penser que j'invite que les amis et puis aussi parce qu'il faut aussi que le public puisse découvrir d'autres choses. L'idée, c'est de voir le plus de monde possible, de plus de techniques, de talents possibles et d'être ouvert à toutes sortes de choses. Là, cette année, on a beaucoup de professionnels, d'artistes et d'artisans d'art qui vont présenter du livre d'artiste, qu'on appelle le livre d'artiste ou livre objet aussi parfois. Donc ce sont des pièces qui vont être des pièces uniques ou tirées à 2, 3, 10 exemplaires maximum. Hein. Voilà, ça, ce sont des choses assez nouvelles sur le salon, enfin des expériences assez nouvelles. Ce type de travail, de création est lié directement au thème de cette année qui est voyage et poésie.
Voyage et poésie. Alors comment, donc ça fait partie, vous avez choisi de montrer des livres d'artistes, il y a aussi des carnets de voyage, comment vous le faites vivre ce thème-là?
Alors, c'est pas moi qui veux le faire vivre. Alors, moi, je propose un thème et les artisans, les exposants, ils vont travailler plus ou moins sur ce thème. Alors, il y en a qui vont le faire beaucoup, il y en a qui vont le faire un petit peu moins. Donc, effectivement, cette année, d'avoir proposé des artistes qui sont plus spécifiquement sur ce type de thème, on va dire, c'est une nouveauté. Les autres, tous les calligraphes, les enlumineurs, ils vont probablement soit décorer leur stand, soit, ça va être une surprise, soit travailler directement sur le thème par une création particulière. C'est vrai que les exposants sont sollicités dès le mois de mars de l'année d'avant, donc juste après le salon. On démarre tout de suite
les invitations, les préparatifs
pour le salon de l'année suivante, hein, et ça permet aux gens de travailler sur la création, sur le thème en particulier. Mais c'est pas une obligation, hein. Ouais. Donc là, les artisans, certains vont faire beaucoup de choses, ils vont axer toute leur créativité sur le thème, et d'autres pas du tout, et puis d'autres vont faire deux trois créations. Ça va être une surprise.
Ouais, ça reste très libre, et le but est de voir le travail les exposants.
Voilà, c'est très libre, c'est juste un thème pour donner un fil conducteur, et puis ça nous permet nous aussi de créer une petite décoration aussi sur le salon. Pour inciter à reconnaître le thème.
Et pour cette sixième édition donc du Salon du Livre et de ses métiers d'art, vous avez aussi un invité d'honneur qui est un atelier espagnol. C'est Escuela Libro.
Escuela Libro, c'est École du Livre, en fait. Libro, c'est le livre. Liber, libri. D'où Anima Libri aussi. Et en espagnol, eux, ils tiennent une école de reliure, et ils viennent de Saragosse. Lui, Eduardo Jiménez, est relieur. Elle, Elena Sanchez, travaille beaucoup sur l'origami. L'origami est une technique asiatique, enfin orientale, essentiellement japonaise, de pliage de papier. Et ils ont créé ensemble un style de décor qui intègre à la fois l'origami et le travail du relieur.
Et c'est assez singulier comme création, c'est assez surprenant.
C'est
aussi.
C'est probablement très singulier. Moi, je ne les ai vus qu'en images, puisque il y a eu un article l'année dernière dans la revue Art et Métiers du Livre, sur laquelle aussi je fais mon marché, si je puis dire, et j'ai trouvé cette idée assez fascinante. Je les ai donc tout de suite contactés, et ils m'ont dit oui, tout de suite.
C'est parti.
Donc ils viennent de Saragosse.
Ouais. Et sur ces journées de salon, le week-end particulièrement, vous organisez aussi des papoteries. Alors des moments de discussion, d'échange, c'est 45 minutes où un ou une professionnelle vient parler de sa technique. Comment ça se présente ?
Pas forcément de sa technique, ils vont parler de... Alors ils peuvent remettre en avant le thème du salon. On va avoir des thèmes sur la poésie, des lectures de poésie aussi. On va avoir, ça va être en déambulation pendant tout le salon. Les papoteries, ce sont des petites interventions de quelques-uns des exposants qui vont pas forcément de leur métier en particulier, mais de techniques, d'histoire, de tout un tas de choses, et ça a beaucoup de succès. Effectivement, ça dure entre 45 minutes et une heure. C'est des petites conférences. Voilà. Après, chacun a son thème de prédilection. Ça va être aussi présentation PowerPoint, des petits films. Les gens peuvent poser des questions, ça reste relativement intimiste puisqu'il y a une quarantaine de spectateurs, pas de spectateurs, de public.
Et vous nous disiez, c'est un salon au début, un salon assez unique par les métiers qui sont présentés, sa fréquentation, son existence. Comment est-ce que vous avez envie de nous parler de ça, des gens qui viennent le voir, des retours que vous pouvez avoir?
Le public, le public... Comment vous dire, le public est forcément intéressé, puisque tous les ans, on a un petit peu plus de monde. Je ne fais pas plus de communication que ce qui est possible, mais ça déborde un petit peu de la France. Ça m'a un petit peu débordé aussi, parce que je ne pensais franchement pas, et on était peu à penser dès le départ, que ça allait marcher aussi bien. Mais effectivement, le public vient de toute la France, d'Europe aussi un petit peu pour ce salon à Montreuil-Bellay, quand même pas non plus Palais des Congrès, à Montreuil-Bellay en plein milieu de l'hiver. Donc on a un beau succès sur cette fréquentation, mais je pense que c'est dû alors en grande partie au thème qui est spécifique, enfin, le thème des arts graphiques, hein, des métiers du livre, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui est unique et qui intéresse quand même justement un certain nombre de gens. Mmh. Les exposants, il y a autre chose aussi, c'est une espèce d'alchimie qui s'est mise en place dès la première édition en 2015. Les exposants se connaissent pas forcément au départ, mais se découvrent dans des métiers qui sont en relation les uns avec les autres, si vous voulez. Le graveur va découvrir le travail du calligraphe ou de l'enlumineur et ainsi de suite. Et ils échangent entre eux. Donc ça, il y a un gros, gros partage entre eux, ce qui fait que ça donne une ambiance assez particulière du fait que les exposants, bien, ils sont heureux d'être là, de se découvrir, de passer du temps ensemble. Et bien, par extension, ils vont être aussi heureux de recevoir le public, un public qui vient aussi exprès pour eux. Mmh. Donc c'est tout un cercle. Hein. Ils ont l'habitude aussi d'être, ils sont déjà très rapidement pris l'habitude d'être bien accueillis par l'équipe de bénévoles du salon. Ça, c'est très important. Et voilà. Donc là, il y a une alchimie qui s'est faite tout de suite entre les exposants et le public. Même si les exposants changent, le public va changer aussi, plus ou moins. Il y a des habitués, bien entendu. Il y a des gens qui viennent, qui découvrent à chaque fois. Mmh. Et ça se passe toujours merveilleusement bien parce que je pense que les exposants sont heureux d'être là, heureux d'être ensemble et de pouvoir partager ces bons moments. Mmh. C'est d'autant plus important que souvent ils viennent de très loin et que les artisans d'art, ce sont aussi des gens qui ont besoin de manger, de vivre, hein, donc ils investissent de l'argent, on va dire, pour se déplacer ici. C'est pas forcément un retour, mais c'est surtout le plaisir de se retrouver ensemble et de pouvoir partager avec un maximum de gens.
Ouais, autour de ces métiers.
On a oublié un élément important, c'est les professionnels qui viennent, qui sont des vendeurs, des marchands de.
Des fournisseurs.
Les fournisseurs, merci. Fournisseurs de matières premières ou d'outillage. Et là, eux, ils apprécient aussi beaucoup ce salon qui est quand même spécifique et sur lequel ils vont beaucoup travailler, tant avec les exposants eux-mêmes qu'avec le public. Hein. Et on a donc des fournisseurs outillage matières premières pour les arts graphiques et des libraires. Plusieurs libraires là cette année, trois libraires d'anciens et deux petites librairies indépendantes. Quelques auteurs aussi. Bon, c'est pas un salon du livre avec surtout des libraires et des auteurs. Hein. C'est plutôt le contraire, un salon des métiers des arts du livre avec quelques libraires et auteurs. Mais ils ont aussi beaucoup de succès. Et puis la preuve en est, c'est qu'ils veulent venir maintenant. Tout fait boule de neige.
Ouais, donc un grand rendez-vous autour du livre à Montreuil-Bellay.
On a oublié aussi les stages. Voilà, maintenant c'est un élément aussi très important non seulement dans l'organisation, mais dans la réussite de ce salon. C'est tous les stages qui sont proposés par certains des intervenants en amont ou en aval du salon. Donc le salon est régulièrement sur le week-end qui est à cheval sur les trois zones de vacances d'hiver. Et ça nous permet, nous, avec notre situation à Montreuil-Bellay, de toucher toute la France. Mmh. Cette année, il y aura une quinzaine de stages effectifs et plus de 80 participants. Donc c'est quand même assez important qu'ils viennent sur Montreuil-Bellay pendant plusieurs jours, y compris le salon. Voilà, donc ça c'est un événement qui est aussi majeur, ce qui fait venir beaucoup de monde. Hein. Tout se nourrit de ce qui se passe à côté en fait.
Oui, tout est lié, c'est un événement avec plusieurs aspects.
C'est un événement complet, on va dire. Peut-être que s'il n'y avait pas les stages, ben, telle ou telle personne ne viendrait pas, ou peut-être que le salon ben, incite aussi les gens à venir sur les stages, à découvrir un certain nombre de choses. Et voilà. Donc là, on a encore une petite quinzaine de stages qui sont en place, qui sont effectifs. Il ne reste pas de la place sur tout le monde, mais il y en a encore qui peuvent accueillir du monde.
Je vais redonner toutes les infos donc, pour découvrir ce salon. Le livre et ses métiers d'art, ce sera les 21, 22 et 23 février. Le vendredi, c'est que l'après-midi, mais ensuite, samedi et dimanche, c'est de 10h à 18h30. C'est à Montreuil-Bellay, alors c'est à la Closerie. Dans une salle et un chapiteau, il y a plein de places pour accueillir tout ce monde-là. On peut grignoter sur place aussi. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut. Et on peut venir, l'entrée est à 7,50€ ou 14€ pour le week-end et 15€ pour les 3 jours. Merci beaucoup Evelyne.
C'est moi qui vous remercie.
On écoute une chanson d'amour du 21e siècle en prévision de la Saint-Valentin.
J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux. Ouais, j'aime bien ton petit regard malicieux. J'aime bien quand tu te déshabes dans mon pied. J'aime bien quand on est deux. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te caresse. Et je sais que t'aimes pas trop quand je m'arrête. J'aime bien quand je tire tes cheveux bien dans la rue. J'aime bien tout ce que tu fais. J'aime bien ta bouche sur le bout de ma haie. Je sais que t'aimes bien le goût de ma haie. Et tu kiffes quand je sur tes haies. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu me FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien ce que tu représentes, je fais des efforts. J'aime bien tes seins, tes seufs, j'aime bien tes formes. J'aime bien ta face, ta bouche, j'aime bien ton corps. Je t'aime bien. J'aime bien écouter ce son quand je pense à Watt. Je sais que t'aimes bien ce que je fais avec mes watts. Fais ta hip tant qu'après tu me rejoins. On roule, on baise, on roule des joints. Déshabille-toi, c'est plus tard la romance. On fait l'amour, après on recommence. Avec toi c'est fou ce que j'aime le sexe. Retourne-toi, mets-toi sur le texte. Tu parles pas noir, tu me prends jamais la tête. On le fait sans gêne, on le fait sans latex. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te touche. J'aime bien le bruit que tu fais quand je te couche. J'aime bien le matin ou juste après la douche. J'aime quand tu cries avec mes doigts dans ta bouche. J'aime bien te regarder, je sais que tu simules jamais. J'aime bien quand on finit en simultané. J'aime bien ta voix, j'aime bien comment tu parles. J'aime bien ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. Yeah. Yeah.
J'étais avec Josman et le titre « J'aime bien ». Vous retrouverez Josman en concert au Festival des Éclectiques à la collection Printemps. Pour l'heure, vous êtes toujours à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur le 101.5 de Radio G. Et si tout va bien, nous devrions retrouver Benoît et sa chronique « Science, Nature, Environnement ». Il n'est pas encore dans le studio, je vous demande de prier très fort avec moi pour qu'il arrive. Et pour faire advenir ce miracle, je vais lancer le générique de sa chronique en priant. Pour qu'il soit là, et je pense qu'il arrive.
Mmh.
Vous entendez le générique de la chronique Science, Nature, Environnement, mais pas Benoît, car il n'est pas encore parvenu dans ce studio. Je crois que nous n'avons pas une force de conviction suffisante en tant qu'auditeur, auditrice et réalisatrice d'émissions. Alors je vais poursuivre avec un autre titre, c'est de Terre Noire, un duo de chansons en français, et ça s'appelle Le Cœur en Latex. On est sur une playlist un petit peu pré-Saint-Valentin, même si l'amour c'est toute l'année.
Tu me dis toujours que je devrais sortir moins, que mon amour il est pas aussi bien que celui de ton ex, et j'ai le cœur en latex. Chérie, tu fouilles, tu veux trouver la faille, comme si au fond tu voulais que je m'en aille. Ouais, mon amex, on a le cœur en latex. Je sens plus rien quand tes mains veulent me tuer. J'entends plus rien quand tu me dis viens danser. Comment aimer, je pense qu'à me protéger. Mon cœur en latex additionne les ex. Moi qui pensais que tu pardonnais tout, toi qui disais que le trio valait le coup. Je deviens ton annexe et j'ai le cœur en latex. Je crois que je dois te faire un aveu. Demain peut se réaliser mes voeux. Ton nom au type exo, je veux plus d'une princesse. Je sens plus rien quand tes mains veulent me tuer. J'entends plus rien quand tu me dis viens danser. Comment aimer, je pense qu'à me protéger. Mon cœur en latex additionne les ex. Je sens plus rien quand tes mains veulent me tuer. J'entends plus rien quand tu me dis viens danser. Comment aimer, je pense qu'à me protéger. Mon cœur en latex additionne les ex. Laisse-moi partir.
Cette fois-ci, c'est pour de vrai, on entend le vrai générique de la chronique Science, Nature, Environnement. Salut Benoît.
Salut Annie et bonsoir à tous.
Bonsoir. Ça va ?
Ça va bien.
On est speed. Alors, quelles sont les nouvelles dans la chronique de cette semaine ?
Les nouvelles, c'est une info agenda, puisque tu sais que la semaine prochaine, c'est les vacances.
Oui,
alors,
chose à faire.
Et en plus, en ce moment, c'est Madine Angers.
Oui.
Donc voilà l'opération qui a lieu tous les ans, qui permet aux Angevins et autres de visiter plein d'entreprises, en tout cas voir l'envers du décor. Et dans le cadre de Madine Angers, l'école de l'ADN d'Angers, l'école de l'ADN des Pays de la Loire même, ouais. Donc qui fait partie de Terre des Sciences en fait, elle organise deux ateliers sympas pour les jeunes et moins jeunes. Notamment le lundi prochain et mardi, donc 17 et 18 février. où il sera question de se glisser dans la peau d'un enquêteur de police pour identifier un ADN recueilli sur une scène de crime.
Génial.
Waouh. Wow. Ouais. Et puis, jeudi 20 et vendredi 21 février, là, pour le coup, ça, on sera dans la peau d'un médecin généticien pour établir un diagnostic génétique.
Donc des trucs assez pointus.
C'est assez pointu, mais bon, c'est grand public. Hein. Justement, c'est fait pour un peu démystifier ces choses qu'on voit dans les séries télé, etc. Non, c'est des vraies techniques de laboratoire. Bon, il n'y a pas de souci, donc c'est très intéressant. Par contre, je fais la pub de ces choses-là, alors que peut-être c'est plein, parce que les inscriptions sont ouvertes depuis fin janvier, et les places sont limitées, donc ça part très vite. Donc, renseignez-vous quand même auprès de l'école de l'ADN. Voilà, on ne sait jamais.
Il y a peut-être une liste d'attente, si jamais.
Peut-être, c'est ça. Alors ensuite, j'ai quelques actus qui ne sont pas vraiment des actualités, en fait. Je vais faire part de... Enfin, il y en a une quand même. Si on a le temps pour la troisième, on verra. On est un peu dans l'actualité. Mais je vais faire part de deux infos. Alors, on sait que parfois, les scientifiques ou les chercheurs sont... On en parle souvent une fois par an à l'occasion des prix Ig Nobel, donc qui récompensent des résultats scientifiques à propos de recherches parfois très loufoques, complètement improbables justement. Et là, j'ai trouvé du lourd là, pour ce soir. Mm-hmm. Donc il y a une étude de chercheurs finlandais en psychologie sociale. Dont alors la publication est parue, hein, donc ça a été reconnu, validé par les pairs. Et le titre de la publi, c'est « Les trous du cul conduisent-ils des Mercedes ou bien les Mercedes transforment-elles en trous du cul ?»
Ils ont fait exprès d'avoir un titre qui nous donne envie d'en savoir plus.
C'est la traduction que je fais de « asshole », mais... D'autres pourraient dire connard, par exemple, peu importe.
Qu'on n'a pas trop envie d'être, en tout cas.
Voilà, je précise que c'est un terme que je vais répéter. Alors, en fait, on s'est demandé s'il y avait un lien entre le comportement des conducteurs de grosses voitures et leur personnalité, à savoir, mais surtout savoir si, effectivement, être dans une voiture comme ça... Alors, ce qu'on cible, hein, c'est les grosses berlines allemandes.
Des voitures plutôt chères.
Plutôt
très
chères,
grosses,
très grosses, volumineuses, genre SUV, etc. Ouais. Alors, est-ce que c'est conduire ces voitures-là qui rend. Qui change ? Ou alors, est-ce que le fait d'avoir d'abord cette personnalité conduit à acheter ces voitures ?
L'œuf ou la poule, quoi, un petit peu.
Exactement.
Alors ?
Donc les travaux ont été menés l'année dernière et ont été publiés donc en fin janvier, hein, c'est tout récent. Les premiers résultats, c'est que... alors d'abord, il faut situer le contexte, ça a été mené auprès d'automobilistes finlandais. Mm-hmm. Donc, et la conclusion, c'est que très souvent, les hommes conducteurs de grosses voitures allemandes sont plus souvent des connards que d'autres.
Mais dans le sens non-respect du code de la route, c'est pas un jugement subjectif, c'est plus ce qui va
fait,
se garer sur les pistes cyclables.
Je vais rentrer dans le détail.
Oui,
donc l'étude affirme que quel que soit leur niveau de richesse, les hommes détenteurs d'une voiture de luxe expriment davantage les traits de personnalité suivants. Alors, deux points, ouvrez guillemets, attention, égocentrique, narcissique, désagréable, têtu, manquant d'empathie et moins enclin à la gentillesse. Donc là, tu n'as clairement pas envie d'y aller. Hein.
Non, j'ai pas envie d'acheter cette voiture.
ni d'aller dans cette voiture avec ce conducteur, non. Surtout. Mais alors, il est comme ça avant d'acheter ou c'est conduire cette voiture qui l'a rendu comme ça? Donc, voilà, c'est ça la vraie question. Donc, le chercheur explique aussi qu'il a eu envie de faire cette étude alors qu'il a remarqué souvent que les personnes qui grillent les feux rouges, qui respectent pas la priorité des piétons ou qui roulent en général trop vite et de manière trop agressive sont souvent des conducteurs de grosses voitures allemandes rapides. Donc voilà, alors l'étude, qu'est-ce qu'elle dit en plus? Donc d'abord, c'est des études qui ont déjà été faites, figure-toi, c'est un sujet
un sujet qui revient.
Eh ben oui, c'était que ces conducteurs-là, on avait déjà remarqué qu'ils contreviennent plus souvent au code de la route que les autres. Alors, l'explication, c'était que c'est à cause de leurs revenus élevés. Et avoir des revenus élevés, ça a un peu un effet corrupteur sur la personnalité. Ça entraîne des comportements plus facilement immoraux dans plein de situations. En gros, c'est l'argent qui pervertit l'esprit. Donc, ça serait plutôt, là, pour le coup, la grosse voiture, le gros SUV qui rendrait crétin.
Mmh.
Lui, il a voulu savoir si finalement, c'est pas plutôt les crétins qui étaient davantage attirés par ces grosses voitures. Donc, il avait vérifié si certaines personnalités étaient préférentiellement attirées par ces véhicules. Voilà, et il y a eu une surprise. Le lien entre les égoïstes et les grosses berlines n'a été observé que chez les hommes, déjà. Alors, il a testé ça sur 1892 automobilistes, donc c'est quand même un panel assez important, et où les gens ont répondu à des questions sur leur voiture, évidemment, mais leurs habitudes de consommation, leurs revenus, et ils ont fait aussi des tests de personnalité.
Tout ça, ça passait par des questionnaires.
Voilà, c'est
ouais,
ça.
C'est pas facile.
Ça peut être difficile à interpréter, mais c'est la méthode qui était la plus facile à mettre en œuvre. Donc. Ça se base sur un modèle psychologique qui est appelé celui des grands facteurs de personnalité, à savoir l'extraversion, le névrosisme, l'agréabilité, c'est un néologisme et qu'on peut comprendre, l'ouverture à l'expérience et le caractère consciencieux vis-à-vis d'autrui. Donc, sans appel, les résultats indiquent que les hommes individualistes qui sont les plus querelleurs, bornés, désagréables, dénués d'empathie, sont aussi ceux qui possèdent le plus probablement une voiture haut de gamme du genre des grosses berlines allemandes. Donc là, c'est assez clair.
Et ça veut dire que ce sont les conducteurs qui ont coché les cases de « je suis borné ».
Alors non, parce que pour ça, il y a des tests, si tu veux.
Ah oui, c'est
en fonction des réponses, on peut déterminer la personnalité, bien entendu.
Bah oui, sinon ils sont très honnêtes.
Ces traits de personnalité donc, expliquent aussi l'attirance vers des produits chers. Et c'est les mêmes traits de personnalité qui expliquent pourquoi ces personnes vont plus fréquemment enfreindre les règles de circulation que les autres personnes. Évidemment, on peut rétorquer qu'il faut avoir des revenus financiers importants pour s'acheter ces voitures. Mais ils ont également constaté, les chercheurs, que les personnes les plus désagréables sont généralement plus attirées par des voitures de statut élevé. C'est des personnes qui s'estiment souvent supérieures aux autres et qui aiment le faire savoir. Alors, autre résultat intéressant et complètement paradoxal, c'est que les personnes les plus consciencieuses sont aussi attirées par ces mêmes voitures.
Donc, si on a une grosse voiture, on peut être sympa, on a une chance de s'en sortir.
Peut-être. C'est aussi associé à des personnalités honorables, ambitieuses, fiables et bien organisées, qui prennent soin d'elles et de leur santé. Donc, tu vois, il y a un peu les deux aspects. Donc, c'est des personnes qui attachent en fait beaucoup d'importance à la qualité. Et c'est vrai que ces grosses voitures, c'est cher, mais c'est de la qualité.
En termes de sécurité.
Exactement. Donc, en fait, ils montrent qu'en conduisant des voitures fiables comme ça, ils sont eux-mêmes fiables. Enfin, dernier résultat de cette étude qui est assez intéressant, c'est que ce point concerne aussi bien les femmes que les hommes, alors que le lien entre les égoïstes et les grosses berlines n'a été associé qu'aux hommes. Donc le côté positif avec des gens fiables pour des grosses voitures fiables, ça concerne hommes et femmes,
ouais.
Et pas l'autre. Mmh. Bravo mesdames.
À méditer.
Donc il n'y a pas d'explication par contre à ça. Si ce n'est que les voitures, finalement, elles ont le même, elles indiquent le même statut social, qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Et il peut y avoir cette attirance dans les deux sexes.
Ouais.
Donc voilà, les études peuvent être à poursuivre, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui pousse à consommer dans cette direction-là, finalement. Et en tout cas, c'était assez sympa d'indiquer ces choses-là. Donc vous ferez attention au feu rouge ou au carrefour, vous regarderez bien.
Quel que soit votre véhicule,
c'est ça.
N'écrasez personne. Et puis ça peut être à croiser avec les sciences sociales.
Mais exactement.
Ouais.
Une autre petite info.
On a un peu de temps. On est déjà en retard.
Sinon, je garde pour la prochaine fois, peu
Comme
importe.
Comme tu le préfères.
C'est toi qui gères le studio.
Allez, on fait la deuxième info.
Alors là, on est plus dans l'actualité. Tu sais qu'il y a un virus qui se balade pas mal en ce moment.
Le coronavirus.
Voilà, le coronavirus, qui n'a rien à voir avec la bière. Je précise, des fois, il y a des fake news qui circulent. Bon, bref. Et ce coronavirus impacte principalement quelques régions en Chine, notamment des grandes villes, et particulièrement la ville de Wuhan, qui compte plusieurs millions d'habitants. Et en fait, Wuhan, ça fait aussi partie des villes où le système de reconnaissance faciale est extrêmement développé. Les gens payent en général avec leur téléphone par reconnaissance faciale. Quand ils vont aux toilettes, il y a de la reconnaissance faciale parce que pour éviter qu'ils consomment trop de papier et qu'ils sont pointés du doigt. Dans les écoles, il y a de la reconnaissance faciale parce qu'il faut cibler les gamins qui sont là ou pas là et ça permet d'anticiper sur leur comportement, etc. dans les cours d'école. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, c'est le fait que les gens doivent porter des masques avec le coronavirus, ça met tout en vrac. Les gens ne peuvent plus payer, ils sont obligés d'enlever leur masque. Enfin, c'est très compliqué. Donc, il y a énormément. Alors, le principal objet, c'est que les appareils mobiles, les téléphones, se déverrouillent en fait par reconnaissance faciale. Mm-hmm. Donc là, tous les gens qui ont leur masque, ça ne marche pas.
Parce
donc,
que l'intelligence artificielle n'est pas encore assez apte à reconnaître jusqu'au fond. Exactement.
Alors, il y a des
yeux.
Tests, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus, mais les yeux et la tête, la forme de la tête ne suffisent pas. Il faut d'autres points sur le nez et la bouche qui permettent une reconnaissance assez fiable. Donc, on ne se rend pas compte, mais là-bas, c'est devenu essentiel à la vie quotidienne. Dans les aéroports, il y a des caméras à l'entrée qui permettent de repérer tout le monde. Il faut maintenant, quand il y a une loi qui est passée il y a peu de temps, quand on achète une nouvelle carte SIM pour son téléphone, obligatoirement, on met sa tête avec, et du coup, c'est lié, quoi. Mais c'est vraiment un truc de fou qu'on n'imagine pas. Alors, il faut rappeler que les Chinois sont 1,4 milliard.
Ouais.
Et voilà, tous sont soumis à cette règle pour enregistrer une nouvelle carte SIM. Donc, c'est très compliqué. Alors, le problème s'étend aussi aux manifestations qu'il y a eu notamment à Hong Kong, où finalement les gens portaient des masques, et du coup on s'est aperçu qu'il y a une sorte d'émancipation vers la violence, puisqu'ils étaient protégés par leur masque et non reconnaissables. Alors, ce qui est valable de côté force de l'ordre et côté manifestants, bien entendu. Et donc ça pose des problèmes, cette reconnaissance faciale sur les dispositifs de sécurité qui sont mis en place par la Chine, quoi.
Ouais, et c'est intéressant de voir comment un petit détail, un masque,
complètement
lié à une question de santé publique, peut complètement mettre en vrac.
Il y a des gens qui sont complètement à côté pour toutes les démarches, que ce soit administratives, de paiement, etc., des choses de la vie quotidienne.
Waouh.
C'est une info, voilà, un effet collatéral, on va dire.
À méditer.
À méditer.
Pour la prochaine info actu, on la retrouvera dans 2 semaines, je pense.
Oui,
Benoît.
Sans problème. Parce que sinon, je garde ça bien au chaud.
On va être très très en retard. Merci beaucoup. Je vous laisse sur les ondes de Radio G avec la programmation musicale. Vous allez retrouver Bullion, Get to the Heart of It. Il faudrait que je prenne quelques cours d'anglais pour animer cette émission correctement. Nous, on se retrouve lundi à 18h10. Nous serons avec Odor, rappeur angevin, qui sort la semaine prochaine son nouvel EP qui s'appelle Inodor. Si vous cherchez des infos, elles sont en ligne sur le site de la radio à la page de l'Oreille Curieuse. Et à 19h, vous retrouvez Droit Devant. Passez une bonne soirée et un bon week-end. À lundi. Thank you.
www.radio-g.fr